Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 14 février avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec une chance de dialogue.
Une chance que la crise ukrainienne se règle encore par la voie diplomatique. C'est le mot qu'a employé cet après-midi le ministre des Affaires étrangères russe lors d'un face-à-face télévisé avec Vladimir Poutine. Très mise en scène, déclaration moins offensive, mais sont-elles crédibles? Nous serons à Moscou avec notre correspondant. Quand une déclaration politique crée le malaise en pleine campagne présidentielle. Yannick Jadot accuse Éric Zemmour d'être le juif de service pour couvrir l'antisémitisme de son camp avant de rétropédaler. Éclairage du service politique à suivre. À suivre aussi cette mort dans un incendie provoqué par une explosion près de Perpignan. Toujours pas d'explication. Une stratégie nationale pour lutter contre l'endométriose. Et puis le sport féminin à l'honneur toute cette semaine avec le foot pour commencer. Décevant après l'engouement de la Coupe du Monde.
Et à 18h15, un jour dans le monde et cette drôle de guerre ou drôle de pas encore guerre qui une fois de plus tout le week-end a soufflé le chaud et le froid. Vous en parliez à l'instant, Sébastien. Est-ce qu'on est plus avancé ce lundi? Si on en croit les Américains, la guerre est toujours imminente. Si on en croit donc les Russes, la diplomatie est encore là. Si on en croit le terrain aux frontières, il ne se passe pas grand-chose. On va essayer de démêler tout ça ensemble. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne après la drôle de guerre, la drôle de campagne qui ce week-end encore a montré à quel point elle ne décollait pas à droite comme à gauche. Maladresse, tir de barre. Ce qu'on a aussi vu ce week-end, c'est que la colère n'imprimait pas non plus. Le fameux convoi n'a pas pris personne, en tout cas dans ses rangs, parler d'élection, sinon d'abstention. Est-ce que vraiment l'entrée d'Emmanuel Macron, qui ne devrait pas tarder, va secouer cette drôle de campagne? À vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc Sébastien, c'est une scénographie dont seul le Kremlin a le secret.
Vladimir Poutine, visage grave face à son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Chacun à un bout d'une table de plusieurs mètres, encore plus longue que celle utilisée avec Emmanuel Macron la semaine dernière. Le tout sous les caméras de télévision. Poutine recevait donc cet après-midi le chef de la diplomatie russe pour faire le point sur la crise ukrainienne. Alors que la crainte d'une invasion russe ne cesse de monter, cette étrange séquence semble laisser encore la porte ouverte au dialogue. À Moscou, Sylvain Tronchet.
C'est une séquence en deux temps, comme le pouvoir russe aime les mettre en scène à la télévision parfois. Premier temps, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient voir Vladimir Poutine. La table qui les sépare est immense. Vladimir Poutine trône à un bout et il interroge son chef de la diplomatie d'un air un peu surjoué.
Sergueï Viktorovitch, pensez-vous qu'il y a encore une chance de parvenir à un accord avec nos partenaires sur les questions clés qui nous préoccupent? Ou s'agit-il simplement d'une tentative de nous entraîner dans un processus de négociation sans fin?
Nous avons mis en garde à de nombreuses reprises, et vous aussi, contre les discussions interminables sur des questions qui doivent être résolues aujourd'hui. Mais quand même, probablement, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dois dire qu'il y a encore une chance.
Le message que le Kremlin souhaite faire passer est a priori clair. Il y a encore de la place pour la diplomatie. D'autant que, quelques minutes plus tard, toujours devant les caméras, c'est le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, qui est venu annoncer au président la fin de certains exercices militaires. D'autres se poursuivent, dit-il, mais là encore le message semble clair. Reste à savoir si ces bonnes intentions affichées dureront dans le temps. La Russie a déjà soufflé le chaud et le froid dans ce dossier. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Ces échanges au Kremlin interviennent alors que les Européens continuent leur travail diplomatique. Le chancelier allemand Olaf Scholz était aujourd'hui à Kiev aux côtés du président Zelensky. L'Allemagne qui exhorte la Russie à saisir les offres de dialogue et assure l'Ukraine de son aide économique. Olaf Scholz qui se rendra demain à Moscou. Sur le plan militaire, le Pentagone affirme lui que le dispositif russe s'est encore renforcé au cours du week-end. Une situation qui commence à inquiéter les marchés financiers. Clôture en baisse de plus de 2% de la bourse de Paris ce soir. La crise ukrainienne, on y revient en longueur dans un jour dans le monde. Fabienne, juste après le journal.
Absolument. La campagne présidentielle en France, Sébastien, et cette déclaration qui passe mal.
Yannick Jadot, hier, chez nos confrères de Radio J, le candidat écologiste interrogé sur Éric Zemmour. On l'écoute.
Zemmour est juif.
Et alors ?
C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Et ça,
c'est grave ce que vous dites là.
Bien sûr, hein? Mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric Zemmour dans la société.
Ça veut dire, attendez, je vous relance là-dessus, ça veut dire que quoi? Zemmour, il est devenu la caution, l'alibi...
Des antisémites.
Des antisémites, bien sûr, le faire valoir des antisémites.
Voilà, Éric Zemmour, le juif de service. L'expression est très critiquée depuis hier. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Au point que Yannick Jadot a fait machine arrière aujourd'hui.
Une réaction face à des accusations qui viennent essentiellement de l'extrême droite. Utiliser l'expression juif de service, c'est se vautrer dans l'antisémitisme de service, lance Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Pendant qu'Éric Ciotti, ex-candidat à la primaire Les Républicains, parle d'antisémitisme d'extrême gauche. Au Parti Socialiste, le ton est plus nuancé. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, évoque une expression pas très heureuse, une formule choc, note Alice Coffin, conseillère de Paris, écologiste. Et puis, le président du Printemps Républicain, Amine El-Khatmi, écrit, lui, sur les réseaux sociaux, « Je me sens blessé au plus profond de moi-même quand on me traite d'arabe de service. J'exècre Zemmour, mais je ne supporte pas non plus de le voir renvoyé à un statut de juif de service. » Yannick Jadot, lui, s'appuie pour se défendre sur les propos du grand rabbin de France, qui qualifie Éric Zemmour de raciste et d'antisémite. « Ceux qui m'attaquent, explique le candidat écologiste, ce sont ceux qui veulent supprimer la loi Guesso des personnalités d'extrême droite. » Et il conclut, il faut que face à un candidat qui assume le révisionnisme, le racisme, l'antisémitisme, le monde se réveille.
Antoine Gignot, merci, du service politique d'Inter. Ajoutons la décision du président du CRIF qui n'invitera pas à son traditionnel dîner ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. C'est un dîner républicain, selon Francis Khalifa, où, je cite, les extrêmes n'ont pas leur place. Autre propos qui provoque des remous, Valérie Pécresse, hier, lors de son premier grand meeting au Zénith, où elle a évoqué pour la première fois, en tant que candidate, la théorie d'extrême droite du grand remplacement, un Rubicon de plus franchi par la droite, selon la candidate socialiste Anne Hidalgo. Valérie Pécresse a par ailleurs reçu aujourd'hui le soutien officiel de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Filly. Et puis à gauche, toujours en politique, la candidature de Christiane Taubira de plus en plus menacée. Le PRG déclare se mettre en retrait. Un certain nombre d'élus du Parti radical de gauche ne lui donneront pas leur signature pour les parrainages. C'est l'un des incendies les plus meurtriers des 10 dernières années. 7 morts, dont un nourrisson et un enfant la nuit dernière à Saint-Laurent-de-Salanque, près de Perpignan. Un incendie déclenché par une explosion d'origine encore inconnue. Trop tôt pour déterminer si la cause est accidentelle ou criminelle. 3 bâtiments ont été touchés. Les dernières précisions sur place de Soisic Pelé.
Les pompiers sont en train de laisser la place ici aux gendarmes pour mener leur enquête. Une enquête difficile pour l'instant puisque l'immeuble est très instable. Les parquets se sont tous effondrés, explique le lieutenant Sébastien Surget, commandant des opérations, et qui ne sait pas encore combien de temps ça va durer.
C'est difficile à définir, il y a encore beaucoup de travail. Et comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment de sécuriser le site pour que les collègues gendarmes puissent intervenir pour l'enquête. Parce qu'on voit très peu de choses, je vous dis, la plupart des planchers sont écroulés. Donc les constatations se feront vraiment par la suite. Et effectivement, il reste une personne portée disparue à l'heure actuelle.
Une personne donc toujours portée disparue, on l'a dit. Et le bilan, sinon, on le rappelle, est très lourd. 7 morts, dont 2 enfants et une trentaine de blessés. Les riverains ont également été pris en charge avec une cellule psychologique ouverte. Et sur place, beaucoup d'habitants viennent déposer depuis le début de l'après-midi des produits de première nécessité, des habits, des couvertures. Des roses blanches ont également été déposées devant les barrières, devant la rue qui a été bloquée.
Voilà, Soisic Pelé, envoyé spécial de France Inter. Quelle sera leur prochaine étape? Strasbourg ou Bruxelles? Les convois dits de la liberté hésitent. En prévision, la préfète du Bas-Rhin a décidé d'interdire toute manifestation non déclarée aux abords du Parlement européen. Et puis au Canada, en revanche, c'est une victoire pour les manifestants anti-pass et anti-vax. L'État de l'Ontario, épicentre de la contestation, va abandonner le pass sanitaire. Le 1er mars prochain, le pass vaccinal en France, lui, que près de 4,5 millions de personnes vont perdre demain, tous ceux qui n'ont pas fait leur dose de rappel dans les 4 derniers mois.
Le procès de Nordal-Lelandais entre dans sa 3e et dernière semaine.
Après avoir reconnu qu'il avait volontairement enlevé et tué la petite Maëlys, l'accusé voit défiler à la barre les psychologues qui l'ont examiné. Mathilde Vincenot, vous suivez ce procès à Grenoble pour nous, bonsoir.
Bonsoir.
Les psychologues viennent éclairer la cour d'assises sur la personnalité de Nordal-Lelandais et sur son incapacité à dire tout ce qu'il s'est passé cette nuit d'août 2017.
Nordal-Lelandais est incapable de ressentir de l'empathie ou de la culpabilité pour ses victimes. Pour se protéger, il s'est cloisonné. Il y a un clivage dans sa personnalité, expliquent les psychologues. D'un côté, une normalité de surface. Et puis de l'autre, cet aspect de lui, cette part sombre dont il n'arrive pas à parler. Si vous racontez les faits, vous faites sauter ce clivage. Vous faites rencontrer deux parties de lui qui ne doivent pas se rencontrer. Les psychologues parlent d'un risque d'effondrement. Un effondrement constant. constatait déjà quand il a avoué où se trouvait le corps de Maëlys il y a 4 ans jour pour jour. Dire ce qu'il s'est passé, j'ai l'impression que ce sera le travail d'une vie pour Monsieur Le Landais, souligne l'une des expertes. Et lorsqu'il reconnaît les faits, alors ce n'est pas un début, demande son avocat. Ça va dans le sens de son intérêt, mais est-ce que c'est vraiment ressenti? Je ne sais pas, conclut la psychologue.
Mathilde Vinceneuve avec Thibaut Nassimben à la technique. Le procès du 13 novembre, lui, va encore prendre du retard. Pas de reprise des audiences avant le 22 février prochain à cause d'un nouvel accusé positif au Covid. On en vient à ce plan gouvernemental de lutte contre l'endométriose, cette maladie qui rend les règles très douloureuses chez beaucoup de femmes et qui affecte 1 femme sur 10 en âge de procréer, qui est à l'origine 1 cas sur 2 d'infertilité et qu'on met aujourd'hui entre 7 et 10 ans à diagnostiquer. Le comité de pilotage a été mis en place aujourd'hui avec une stratégie de lutte sur 4 ans, les précisions de Véronique Julia.
3 volets. D'abord la recherche. Plus de 20 millions d'euros vont être consacrés à tenter de mieux comprendre l'endométriose, son origine, ses mécanismes et les solutions possibles pour mieux la diagnostiquer et la traiter. Il s'agira de recherche fondamentale, mais aussi de recherche clinique, de sciences humaines et même d'épidémiologie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
La France va se doter de la plus grande base de données au monde en matière d'endométriose. Ce sont plus de 11 000 femmes qui vont pouvoir être suivies en temps réel.
Deuxième axe, garantir d'ici 2023 un diagnostic et un accès aux soins pour toutes sur tout le territoire. Aujourd'hui, des centres experts existent, mais trop peu. On n'en compte même pas 15. 5 millions d'euros par an vont être alloués pour créer des filières de soins régionales. L'exécutif souhaite aussi que les femmes atteintes connaissent mieux leurs droits et puissent bénéficier de la reconnaissance en infection longue durée à laquelle elles peuvent prétendre quand leur état le justifie. Les jeunes filles seront quant à elles mieux suivies.
L'endométriose sera inscrite dans le carnet de santé et elle sera recherchée dans le cadre des consultations effectuées dès l'adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans.
Enfin, troisième axe, plus de formation initiale et continue des professionnels de santé sur l'endométriose, mais aussi une sensibilisation de tous les secteurs à cette maladie. Clubs de sport, écoles, universités et même entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que le ministère du Travail est associé à la stratégie. Les femmes atteintes devront bénéficier en cas de besoin d'aménagement de leur poste ou de leurs horaires de travail.
Véronique, Julia.
Et on finit avec du sport et cette question, le football féminin est-il à la ramasse hein?
Oui, accusation portée par l'attaquante de Lyon, Ada Hegerberg. Au moment où le sport féminin fait l'objet d'une campagne de sensibilisation toute cette semaine dans les médias, le foot féminin a bien été à la mode il y a 3 ans lors de la Coupe du Monde. Mais depuis, pas grand-chose, au point que les joueuses se demandent si elles ne vont pas quitter le championnat français pour partir vers d'autres cieux, Arnaud Rozac.
Tout le monde s'accorde à le dire, cette Coupe du Monde a été une formidable vitrine. Des stades remplis, des audiences télé records. Et désormais, le foot féminin en France, c'est 200 000 licenciés, soit 4 fois plus qu'il y a 10 ans.
En ces termes-là, oui, ça a été une réussite. Ce qu'il a été en fait un peu moins, c'est la suite.
Frédéric Jossinet est l'ancienne directrice du football féminin au sein de la fédération.
Derrière, ça devait nous permettre la poursuite de la professionnalisation en fait, du football féminin, comme chez les garçons en fait. Une vraie réflexion sur l'accompagnement de ce football féminin vers l'élite, vers le haut niveau, et qui en fasse une nation forte, on voit bien que c'est pas le cas.
Aujourd'hui, la D1 féminine patine. Le niveau de jeu global ne progresse plus. Seulement 2 équipes dominent, Lyon et le PSG. Les stades sonnent bien creux. Et tout ça inquiète l'ancienne footballeuse professionnelle Nadia Benmokhtar.
Aujourd'hui, le championnat anglais, ça devient un peu le nouvel Eldorado où on peut doubler son salaire. L'Espagne est en train de réussir son pari au niveau populaire. On a le Barça Real qui remplit le Camp Nou, 80 000 personnes. Là où en France, quand on fait 10-20 000 sur nos plus grandes affiches, on est déjà content. Ma crainte, c'est l'exode des joueuses.
Cet exode se matérialise déjà. En témoigne le départ l'été dernier d'Irène Paredes, la capitaine du PSG, vers le FC Barcelone.
Arnaud Rozac, le sport féminin qui sera à la une, Fabienne, toute la semaine sur France Inter.
Absolument, y compris dans le téléphone sonne d'ailleurs. Sébastien Logénie, merci beaucoup. À tout de suite, dans Un jour dans le monde, vous allez nous parler d'un candidat aux élections en Corée du Sud qui a un avatar bien plus cool que lui. Eh bien, peut-être que ça peut donner quelques idées, figurez-vous, à certains ou certaines. Allez savoir. Ce soir, nous allons en Ukraine et autour, tenter de comprendre où nous en sommes de cette drôle de guerre qui n'a pas commencé. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Allez-y, le standard est ouvert. Décidément, cette campagne présidentielle, elle nous a montré ce week-end encore combien elle est confuse, combien elle glisse sur les électeurs. Toujours pas d'enthousiasme, pas de colère non plus. C'est ce qu'on a vu avec le fameux convoi qui n'a pas donné grand-chose. Pas de colère, si ce n'est celle de l'abstention. Pas de thème majeur qui émerge non plus, alors que vraiment l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, qui ne devrait plus tarder maintenant, permettra de changer cette donne. Vos questions, votre avis au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, bonsoir. Souvent gris, demain voilà pour le temps, sauf sur le sud-est.
Oui, bonsoir à tous. En effet, du Roussillon jusqu'au sud des Alpes, on aura du soleil demain. Attention toujours au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 80 km à l'heure demain. Ailleurs, on aura un ciel souvent gris avec quelques averses, un peu de neige vers 700 mètres en montagne, de nouvelles pluies de la Bretagne au nord de la Seine pour l'après-midi. Elles progresseront en soirée vers les Charentes et vers la Lorraine. Et puis, ce sera quand même un peu plus agréable de la Belgique vers la région parisienne et le Berry le matin avec des éclaircies. On retrouvera ces éclaircies de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'en vallée du Rhône l'après-midi.
Et puis petite baisse le matin côté thermomètre.
2 à 5 degrés attendus, ça reste tout de même des valeurs positives. Jusqu'à 8 degrés près des côtes et puis l'après-midi il fera 8 degrés à Mulhouse, 9 à Grenoble, 11 à Paris et Clermont-Ferrand, 13 à Rennes, à Bordeaux et jusqu'à 15 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie, à tout à l'heure bien sûr après 19h.